attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Radio Campus, et c'est l'heure d'Angle d'attaque, une émission proposée par les trois comités locaux de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Avec pour vous servir aujourd'hui aux manettes, le grand retour de Florent. Retour éphémère, mais retour quand même. Comment tu vas, Florent ?
Ça va.
Ça va ? Et ta maison en bois, elle résiste au souffle du loup maintenant, du grand méchant loup ?
Oui, il n'y a pas de problème, elle est solide.
D'accord. Bon, Didier le nouvelliste, Ludovic au loup gramscien, et puis René au téléphone en grande première mondiale. René, tu m'entends ?
Oui.
Voilà. Ouais. Tu vas mieux ?
Oui, ça va.
C'est un petit ça va, ça, hein, quand même. Bon, on t'appelle tout de suite. Et puis, René qui souffre de cette sale bête venue d'Extrême-Orient. Donc, il a préféré rester chez lui. Donc, voilà. Et puis moi, Christian, je suis comme d'habitude à présenter l'émission d'aujourd'hui. De quoi parle-t-on aujourd'hui, justement ? Eh bien, de l'actualité d'attaque. C'est pas bien normal, vous me direz-vous, mais c'est pas si habituel que ça. Ben, il faudrait qu'on y réfléchisse, d'ailleurs. L'actualité d'attaque, c'est quoi ? Ce sont les inégalités en France et, d'ailleurs, partout dans le monde. Attaque dénonce dans ses analyses et dans ses actions ces inégalités. Et on n'est pas les seuls. Le rapport d'Oxfam, dont René va parler, c'est aussi un de ces éléments d'analyse très utiles pour comprendre notre pays, notre situation dans les pays capitalistes. À Paris, les militants d'attaque ont occupé pendant 2 heures la Samaritaine, un grand magasin de luxe parisien, pour y déployer une banderole sur laquelle il y avait des représentations des quatre fantastiques. Vous savez, celles et ceux qui étaient prêts à nous faire les poches en cas d'élection. Il en restait deux. Devinez qui sont les quatre et vous aurez les deux. Au niveau métropolitain, j'allais dire plus modestement, mais non, il n'y a pas de raison, c'est le journal, c'était dans le journal local, mais pas seulement, plus une fois. On était présents avec nos tracts et notre banderole au marché d'Elem, dans la rue de Béthune, aussi à Lille, en face de chez Mullier. On a été évacués par la police, sans violence quand même, je précise, mais ils n'ont pas du tout aimé la banderole, la même d'ailleurs qu'à Paris, avec les mêmes quatre fantastiques à qui attaque a attribué l'appel d'or. C'est quoi l'appel d'or, René Didier, pardon.
Oui, l'appel d'or, c'est donc une pelle pour creuser, donc l'appel d'or pour les candidats des inégalités, donc les quatre fantastiques comme tu les nommes. Bon, donc c'était une action d'attaque qui a été relayée, enfin qui a commencé à l'aube du 4 mars 2022, donc au QG de campagne de La République En Marche à Paris, pour ne pas la citer, et ça a donné lieu à des actions un peu partout en France. Bon, chez nous. On l'a dit, il y a eu donc un article de presse, des distributions de tracts, mais il y a eu aussi une déambulation dans la rue de Béthune avec, on a voulu accrocher une banderole qui a pas plu à ces messieurs, les policiers municipaux. Donc on a distribué des tracts dans les rues piétonnes. Donc tout ça, c'était avant le premier tour des élections pour marquer le coup et dénoncer les inégalités dans le pays.
Et ouais, et bien donc voilà, c'est ça la cohérence, on fait l'émission en cohérence avec, avec notre activité militante. Bon, et bien donc, vous l'avez compris, on va parler des inégalités et on est quatre pour ça. René va le parler du rapport d'Oxfam. Il va remplacer d'une certaine façon Pauline Leclerc qui nous a fait l'honneur d'être présente au téléphone il y a 2 ans je crois maintenant. Pauline Leclerc d'Oxfam, donc, qui fait partie des rédactrices du document, du rapport. Didier va parler de l'Observatoire des inégalités. Pour ma part, je ne pouvais pas éviter de parler de l'Observatoire de l'injustice fiscale qui est hébergé à Attac. Et on parlera avec Ludovic des comportements électoraux et les inégalités socio-économiques.
Notamment de l'abstention.
Ah oui, en France, effectivement. Pour commencer, un mot sur un graphique impressionnant piqué dans le livre de Thomas Piketty. Que nous dit ce graphique ? Bien, que, sauf aux USA, les écarts de fortune, entendaient par là l'accaparement du revenu national brut, qui est équivalent du PIB, il y a une discussion entre Piketty et Gadret là-dessus, eh bien, l'accaparement de la part du revenu national par les classes très riches et les classes pauvres a bien diminué depuis le début du siècle passé. La taille que prend, la durée que prend Piketty, c'est 1900-2015. Et donc, il prend en considération aux USA et en France les plus riches, les 10% les plus riches et les 50% les plus pauvres. Eh bien, les inégalités sont restées très fortes sur la période, bien que 5 fois moins nombreux, les 10% les plus riches reçoivent toujours une part du revenu total beaucoup plus forte que les 50% les plus pauvres. Vous ne serez pas étonnés. En fait, Piketty donne des chiffres en termes de pouvoir d'achat. Les plus pauvres ont un revenu de 15 530 euros, les plus riches 119 930 euros. Tout ça, évidemment, est une estimation. Ça fait quand même 7 fois 2 plus que les plus pauvres. Et il faudrait s'intéresser, si vous êtes intéressé, c'est dans les graphiques, dans ce bouquin qui s'appelle « Idéologie et capital », c'est le graphique page 575, qui montre également de façon très intéressante comment, depuis 1900 jusqu'au milieu de la guerre à peu près, la Seconde Guerre mondiale, la fortune des plus riches diminue, remonte un peu. Et ce qui est le plus intéressant, c'est les années, à partir des années 80, où on voit l'influence d'un Reagan aux États-Unis très très nette, et là le revenu américain s'envole, le revenu des plus riches s'envole pour atteindre celui qu'on ne pouvait pas penser que c'était possible, celui des années 1900. 1900 était une période d'inégalité extrêmement forte, et bien les Américains sont revenus à ce niveau-là. En France, on est toujours quand même sur des choses beaucoup plus rapprochées, mais on voit bien qu'à partir des années 80, les revenus des plus riches augmentent en France et les revenus des plus pauvres diminuent lentement, mais diminuent quand même. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, on va peut-être passer, donc, si j'ai bien compris, le plan à René. René, tu vas nous parler d'Oxfam.
Oui, alors je vais vous parler de chiffres du rapport d'Oxfam de janvier 2022, donc le dernier. Voilà quelques chiffres clés.
Tu vas parler de violence, c'est ça ?
Oui, en sous-titre, mettons « violence économique ». Donc, selon les estimations, 5 600 000 personnes meurent chaque année dans les pays pauvres par manque d'accès aux soins de santé. Au moins 67 000 femmes meurent chaque année des suites de mutilations génitales féminines ou sous les coups de leurs partenaires. La faim tue à minima 2 100 000 personnes chaque année. La crise climatique pourrait faire 231 000 victimes par an dans les pays pauvres d'ici 2030. Les inégalités contribuent à la mort d'au moins 21 300 personnes par jour, soit une personne toutes les 4 secondes. Pardon. Voilà. Donc on peut constater que, évidemment, les dommages et les décès frappent beaucoup plus les personnes en situation de pauvreté, les femmes, les groupes racisés, que les personnes riches et privilégiées. Évidemment, ça n'a rien d'accidentel. On peut parler là d'une forme de violence économique. C'est une composante essentielle du capitalisme actuel, disons.
Oui, effectivement, on va le voir après dans nos différentes interventions, y compris par Didier, peut-être aussi par moi.
Voilà. On peut dire que les politiques structurelles et systémiques, résultat de choix politiques biaisés en faveur des personnes les plus riches et les plus puissantes, conduisent à cette situation.
Mais moi, je suis toujours surpris, alors je vais soulever une polémique sans doute, mais je suis toujours surpris des chiffres. Par rapport à 6 milliards d'habitants, je ne trouve pas ces chiffres énormes, en fait. Mais bon. En revanche, il faudrait regarder peut-être de plus près les problèmes posés par la pandémie aussi.
Eh oui. Alors, la pandémie, on parlait du monde d'après. Alors, la crise de la pandémie donc, a frappé un monde, bien sûr, déjà inégalitaire, mais elle a exacerbé ces inégalités en fragilisant les plus pauvres, bien sûr. Malgré l'espoir d'un monde plus juste et plus durable, la réponse à la crise a largement alimenté la spirale des inégalités, enrichissant les plus riches et fragilisant les plus précaires.
Oh, les chiffres sont impressionnants, là, que tu vas dire, là.
Oui, alors là, les chiffres sont parlants. La fortune des quelques 2 755 milliardaires dans le monde a plus augmenté en 19 mois de pandémie qu'au cours de la dernière décennie, donc en 10 ans. La fortune des hommes les plus riches du monde a doublé, alors que les revenus de 99% de l'humanité sont moins importants que prévu à cause de cette pandémie.
Alors là, les chiffres sont impressionnants. Là, je repense à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que je viens de dire.
Les hommes les plus riches du monde détiennent plus que les 3 milliards et quelques de personnes les plus pauvres. Depuis la pandémie, le monde compte un nouveau milliardaire toutes les 26 heures, ce qui montre qu'il y a bien un enrichissement d'une petite caste de privilégiés, alors que 160 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté. Et encore peut-être plus parlant ou anecdotique, à elle seule, l'augmentation de la fortune de Jeff Bezos d'Amazon pendant la pandémie permettrait de financer la vaccination de chaque être humain de la planète.
Et pendant ce temps-là, il a fait le tour de la planète et malheureusement, il est descendu. Une question de Didier.
Oui, je veux dire, par rapport à ces chiffres, bon, c'est quand même des chiffres qui sont relativement connus, en tout cas peut-être pas du grand public, mais qui paraissent régulièrement dans la presse, notamment les chiffres que tu cites d'Oxfam, donc qui font état d'inégalités criantes, à tel point que ces chiffres sont devenus littéralement scandaleux, en plus avec la pandémie. Ce que je veux poser comme question, c'est un peu naïf, mais ces chiffres semblent pas non plus percuter vraiment le débat. On a beau toujours asséner les mêmes chiffres qui sont criantes qui sont quand même sur les inégalités qui sont extrêmement pertinents et qui sont alarmants, mais je veux dire, ça n'émeut pas les populations comme ça devrait, quoi.
Oui. Alors là, comme c'est au niveau mondial, évidemment, les cas les plus criants, c'est dans les pays pauvres, loin de chez nous, et peut-être que ça n'interpelle pas le public ici en Europe, hein, en France. Pas vraiment, enfin, le grand public, je veux dire. C'est peut-être une raison.
Dans le film qui suit, un commentaire en fait, qui suit les Pinsons Charlot, les Pinsons Charlot rencontrent des étudiants dans le quartier chic de Paris, un groupe d'étudiants, et ils expliquent, écoutez, vous voyez les riches qui sont là. Eh bien, on va faire la comparaison. Vous, quand vous vous levez le matin, vous ne pensez pas qu'il y a des gens qui meurent au Sahel ou au Cambodge, en Érythrée, etc. Eh bien, eux, c'est les mêmes pour vous, en fait. Ils vous ignorent complètement.
Je crois qu'il y a du fait de l'éloignement, et puis... Oui.
C'est un éloignement social, physique.
Géographique et social, oui. Il y a une ignorance de l'autre, en fait, oui.
Bien, René, tu continues alors ?
Oui. Donc ces inégalités ont rendu la pandémie plus mortelle, plus longue et encore plus dommageable pour les moyens de subsistance. Au final, les inégalités de revenus sont plus déterminantes que l'âge comme facteur de risque de mourir du Covid-19. Des millions de personnes seraient encore en vie aujourd'hui si elles avaient été vaccinées. Les décès imputables à la pandémie sont plus nombreux parmi les personnes racisées les plus pauvres du monde. Et dans certains pays, les personnes les plus pauvres sont presque 4 fois plus susceptibles de mourir du Covid que les plus riches. Par exemple, en Angleterre, pendant la deuxième vague, les personnes d'origine Bangladesh ou du Bengale indien... Ouais. Était 5 fois plus susceptible de mourir du Covid que la population britannique blanche. D'accord. Et aussi le fait qu'au moins 73 pays soient confrontés à la perspective d'une austérité soutenue par le FMI risque d'aggraver les inégalités entre les pays. Et tous les types d'inégalités au sein des pays. Les droits des femmes et les progrès en matière d'égalité de genre vont fortement pâtir de ces mesures d'austérité dans un contexte de crise qui a déjà fait reculer d'une génération entière l'objectif d'atteindre la parité. Donc voilà, on rejoint ce que je disais, que c'est voilà, l'influence du FMI, bien sûr. Donc c'est l'entretien de ces inégalités est intrinsèque au système.
Entendu. Et donc, il y a effectivement l'enrichissement historique des milliardaires en France. Alors, oui, tu en dis un mot et on passe la parole à Didier.
D'accord. Alors en France, eh bien, oui, c'est sans précédent. En France, la fortune des milliardaires a augmenté plus rapidement en 19 mois de pandémie qu'en une décennie entière. Ça rejoint un peu ce que vous disiez au niveau mondial. De mars 2020 à octobre 2021, la fortune des milliardaires a augmenté de 236 milliards d'euros, soit une hausse de 86%. Elle avait augmenté de 231 milliards d'euros entre 2009 et 2019, en 10 ans. Donc voilà, c'est parlant.
Un candidat aux élections présidentielles disait que c'était la somme qui avait été dépensée par le gouvernement. C'était la même, curieusement. Mais je ne dirai pas quel est le nom du candidat.
Oui. 236 milliards d'euros, c'est assez d'argent pour quadrupler le budget de l'hôpital public, dont on sait qu'il est bien mal en point, ou verser un chèque de 3 500 € à chaque Française et Français. Cette accumulation historique de richesses ne profite qu'à une poignée de personnes, évidemment, on s'en doutait. Alors, selon les données Forbes, la France compte actuellement 43 milliardaires, 4 fois plus qu'après la crise financière de 2009. Seulement 5 sont des femmes. Elle a surtout entraîné une explosion des premières fortunes de France. Ces 5 fortunes possèdent désormais autant que les 40% de Français les plus précaires. En France, les 1% les plus riches possèdent plus qu'il y a 25 ans, tandis que les 50% les plus précaires ont vu leur part diminuer. Et cette richesse se transmet de génération en génération. Une analyse indépendante menée par le Financial Times, des données Forbes, estime que 8 milliardaires français sur 10 sont des héritiers. Oui.
Tu es content qu'il y ait des milliardaires en France, René ?
Combien ?
Tu es content qu'il y ait des milliardaires en France ?
Possibilité de ruissellement.
Bien sûr.
Moi, non, pas vraiment. Enfin, toujours est-il qu'on peut voir que ça n'a pas grand-chose à voir avec leur mérite personnel ou leur talent, mais c'est une question d'héritage.
Vous n'aimez pas les riches ?
Comment ?
Didier disait que tu n'aimes pas les riches, en fait.
Ben non. Par moments, j'ai envie de leur botter les fesses, mais bon.
Heureusement que t'es au téléphone, là, ça va.
Oui.
Allez, on termine.
Oui, un dernier point. Ces milliardaires ne sont pas les seuls à profiter des politiques à l'œuvre depuis en gros 40 ans et des récentes politiques de réponse à la crise. La France compte aussi 6320 ménages possédant un patrimoine supérieur à 50 millions de dollars, là c'est en dollars, et 125 650 ménages possédant un patrimoine supérieur à 5 millions de dollars.
Et ça, voilà. C'est dans le magazine Forbes, j'imagine, c'est ça ?
Forbes.
Ok, merci René. On passe la parole à Didier sur les inégalités de revenus. On va revenir au niveau français pour compléter ce que tu viens de dire.
Oui, donc on va revenir donc à l'aspect bien français, donc avec les inégalités de revenus, c'est le rapport de 2021 de l'Observatoire des inégalités. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que l'Observatoire des inégalités ? Ça a été fondé en 2003 à Tours par l'économiste Louis Morin avec Patrick Savidan et Serge Monin, avec des experts. Donc il y a une dizaine d'experts, dont Denis Clerc, qui est un ancien éditorialiste d'Alternative économique, la sociologue Dominique Méda, ou Monique Pinson-Charlot, dont on a déjà parlé. Donc c'est un organisme indépendant et son but est de dresser un état des lieux chiffré des inégalités en France et dans le monde et d'apporter des éléments d'analyse, ce qu'ils font d'ailleurs très bien. Donc on va essayer de ne pas faire du chiffre dropping, on va quand même cerner quelques domaines, bon, les revenus, le niveau de vie, les salaires, les hauts revenus et les patrimoines. Et après, on conclura par quelques projections qui sont faites par l'Observatoire. Donc, sur les revenus, bon, il faut savoir que le revenu médian s'élève à 1771 euros mensuels pour une personne seule après impôts et prestations sociales. Donc, le revenu médian partage la population en deux, entre ceux qui touchent le plus et ceux qui touchent le moins. Donc, c'est des éléments statistiques qu'il faut connaître. Sur le niveau de vie, l'écart entre le niveau de vie moyen des 10% les plus riches et celui des 10% les plus pauvres est au même niveau en 2018 qu'en 2008, 10 ans plus tôt. Et en 20 ans, donc de 1998 à 2018, il a augmenté de 9367 euros mensuels. Donc là aussi, c'est l'appel d'attaque est tout à fait pertinent puisque les inégalités se creusent. Sur les salaires, il y a un chiffre qui est important, c'est que les 10% les plus riches touchent un salaire trois fois, enfin le chiffre exact c'est 2,9, mais disons trois fois plus élevé au minimum que les 10% les plus pauvres. Sur la pauvreté, une personne est considérée comme pauvre quand elle vit avec moins de 885 euros par mois. Donc c'est la moitié du revenu médian. Et les 10% des Français les plus pauvres ont un niveau de vie égal à 715 euros par mois. Ce qui rend quand même difficile la vie. Le taux de pauvreté a augmenté de 7,7% en 2009 et à 8,2% en 2019. Donc une hausse de 0,5 points en 10 ans. Bon, ça a l'air de rien, mais ça représente quand même 500 000 personnes qui ont basculé dans la pauvreté. Alors 5,3 millions de personnes vivent avec moins de 885 euros par mois.
Il faut rappeler aussi que le RSA est à 565 euros, quelque chose comme
c'est ça.
Oui. Mais on leur demande de bosser en plus, c'est quand même
absolument,
assez magnifique.
Ouais, ça c'est la nouveauté.
Excuse-moi Philippe.
Non, mais c'est tout à fait pertinent puisque effectivement, donc, avec un RSA qui est vraiment une espèce de filet de survie, on demande quand même des gages, il ne faut quand même pas que ce soit gratuit tout ça. Donc le taux de pauvreté des jeunes adultes, donc de ceux qui ont entre 18 et 29 est passé de 8,2 en 2002 à 12,5 en 2018, donc une progression de plus de 50%. Et les jeunes adultes constituent la tranche d'âge où le risque de pauvreté est le plus grand et pour qui la situation s'est le plus dégradée en 15 ans. Donc voilà le sort qu'on réserve quand même à la jeunesse. Sur les hauts revenus, donc on est riche, nous disent l'Observatoire, les statisticiens et économistes qui y travaillent. On est riche à partir de 3542 euros par mois. C'est le double du niveau de vie médian. Le niveau de vie moyen des 10% les plus riches est de 5090 euros mensuels. C'est quand même pas trop mal. Les 10% du haut de l'échelle des revenus touchent en moyenne 7 fois ce que touchent les 10% du bas, après impôts et prestations sociales. Donc chaque mois, ils gagnent en moyenne 4375 euros exactement de plus que les 10% les plus modestes. Sur les patrimoines, on va terminer avec ça. Donc les 20% les plus aisés épargnent en moyenne 28% de leurs revenus contre 3% pour les 20% les plus modestes. Le montant de leur épargne annuelle, donc 15 930 euros par personne, s'il vous plaît, dépasse le montant de l'ensemble des revenus d'une personne du cinquième le plus modeste de la population. Donc là aussi, au niveau de l'épargne et du patrimoine, les inégalités se font sentir. À eux seuls, les 10% les plus fortunés possèdent 46,4% de l'ensemble du patrimoine des ménages. Excusez du peu. Et le patrimoine médian des ouvriers non qualifiés est de 12 300 euros, endettement déduit. Chez les cadres supérieurs retraités, il est par exemple de 397 000 euros. Donc 32 fois plus, des fortunes immenses s'accumulent au sein d'une poignée de familles. À titre d'exemple, l'Observatoire... cite l'exemple de Bernard Arnault, donc bien connu de notre émission et de nos services, donc le patron de LVMH, qui possède par exemple un revenu équivalent à l'ensemble des logements de la ville de Toulouse. Alors sur les projections, l'Observatoire... qui a donc publié son rapport, fait quelques projections, donc les plus intéressantes. Les plus touchés en termes de revenus par les conséquences de la crise sanitaire sont les jeunes actifs qui ont perdu un contrat précaire et n'avaient pas assez cotisé pour avoir droit à des indemnités de chômage. Pendant ce temps-là, bon, il y a quand même eu de l'argent magique et du quoi qu'il en coûte qui a quand même favorisé un peu les autres. Et les plus riches, donc, on y vient, empêchés de voyager et de consommer, ont épargné encore plus qu'en temps normal. Reste à savoir ce qu'ils feront de cette épargne. Est-ce qu'ils vont aider ceux qui en ont le plus besoin ou est-ce qu'ils vont accumuler pour transmettre encore plus à leurs descendants? Pour moi et pour vous, certainement, la deuxième proposition, c'est la plus vraisemblable. Voilà, donc ce rapport qui... Il faut aussi signaler que l'Observatoire de la pauvreté qui avait été créé, qui a été dissous en 2019, où notre ami Jean Gadret, par exemple bien connu d'Attaque, était partie prenante, enfin faisait partie de ce collectif. Ce collectif a été dissous en 2019, donc ce qui prouve que les chiffres sortis par ces organismes sont quand même font un peu tousser les pouvoirs publics.
En effet, oui. Et il vaut mieux rien voir comme ça avancer là-dessus. René, encore un mot sur l'économie au service des riches?
Alors oui, toujours le rapport Oxfam par rapport aux politiques de la BCE et des politiques nationales. Donc, comme je disais, si la fortune des milliardaires a autant augmenté en sortie de crise, ce n'est pas grâce à la main invisible du marché ni par les choix stratégiques brillants des milliardaires. C'est principalement en raison de l'argent public versé sans condition par les gouvernements et les banques centrales dont ils ont pu profiter.
C'est vraiment polémique là. Hein.
Oui. Dès juin 2020, la banque UBS, bon, une banque quand même, avertissait de l'impact démesuré des politiques monétaires des banques centrales sur la fortune des milliardaires. Avec une politique du « quoi qu'il en coûte » sans condition, pour faire face à la crise, les gouvernements et les banques centrales ont permis la hausse la plus importante de la fortune des milliardaires jamais enregistrée. Au-delà de la réponse à la crise, la dérégulation du marché du travail, les politiques fiscales décidées au cours des 40 dernières années, donc bien avant la pandémie, donc depuis l'ère néolibérale, on va dire.
Oui, je parlais tout à l'heure de 1980. À partir de ce moment-là, la fortune des Français les plus riches augmente, effectivement, tu as raison.
Voilà, exactement. Donc, ces 40 dernières années, donc, on construit une économie au service des 1%. Selon la dernière étude du Laboratoire sur les inégalités mondiales, les 1% les plus riches au niveau mondial, bien sûr, ont capté 38% de la croissance des richesses contre seulement 2% pour les 50% les plus précaires. J'avais trouvé une étude de BSI économique sur la politique monétaire de la BCE. Alors, accroît-elle les inégalités? Alors, selon eux, les politiques de quantitative easing ont stimulé l'activité en permettant quand même quelques créations d'emplois, ce qui a permis de réduire les inégalités de revenus. Bon. Par contre, l'augmentation du prix des actifs financiers causée par cette même politique de quantitative easing a un effet cette fois plus ambigu sur la distribution des richesses. En fait, elles auraient largement augmenté les inégalités de patrimoine. Voilà.
Ok, merci René. Je vais poursuivre plutôt en parlant de la fiscalité en France. Évidemment, comme membre d'Attaque, on a bien compris que l'auditrice aura bien compris qu'on ne pouvait pas éviter de parler de l'Observatoire des inégalités fiscales. Alors, en France, on les connaît, les inégalités fiscales. J'ai commencé par le plus difficile à comprendre. C'est le prélèvement forfaitaire unique. Le prélèvement forfaitaire unique, qu'on appelle également flat tax, parce que c'est des choses qui sont connues dans les pays anglo-saxons. La flat tax, c'est une façon de faire payer moins d'impôts aux riches. Alors, on connaît déjà la suppression de l'impôt sur la fortune. Ça a été dit, redit, je ne reviens pas là-dessus. On sait que l'impôt sur la fortune a été transformé en impôt sur la fortune immobilière pour laisser la place à la fortune mobilière, c'est-à-dire les actions et les obligations. Cette mesure a bénéficié à 358 000 foyers redevables de l'ESF en France sur 30 millions de ménages. J'ai arrêté avec les chiffres, ça fait 0,01% des ménages qui étaient redevables de l'ISF à l'époque. Bon. Donc, la flat tax. Alors, c'était sûrement pas suffisant de passer à l'IFI. Il fallait encore s'occuper de ceux qui ont des valeurs mobilières, c'est-à-dire des plus-values de cession, les dividendes, les obligations, les assurances-vie. Et oui, les assurances-vie avec le plan épargne-logement et le crédit, l'épargne-logement, le CEL, je sais plus ce que ça veut dire. Le CEL, c'est quoi ?
Le compte
épargne-logement. Merci, René. Donc, la flat tax, c'est clair, c'est pour payer moins d'impôts. Et ce qui est intéressant, c'est que la flat tax est demandable par n'importe quel contribuable. Le problème, c'est qu'au moins on est riche, au plus on paiera avec la flat tax, et au plus on est riche, au moins on paiera avec la flat tax. J'explique un peu le mécanisme. La flat tax, c'est un taux unique. Hein, on est bien d'accord. Dans la flat tax, il y a deux choses. Le prélèvement au titre des cotisations sociales, c'est 17,2%, et le prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu de 12,8%. Celui-là, déjà, pas très élevé. Donc, la flat tax à 30%, c'est 17,2% plus 12,8%. On est d'accord, René ?
Oui.
On est d'accord. Très bien. Bon. Donc, pour comprendre... Vous choisissez vous-même, vous contribuable, la flat tax au taux marginal d'imposition. C'est-à-dire, je rappelle, qu'il y a 5 taux marginaux d'imposition en France. Le taux marginal, c'est le taux auquel la dernière tranche d'imposition dont vous êtes redevable est imposable. Ça marche toujours ?
Ah, c'est oui.
Ça devient compliqué. Hein ? Bon, en clair, en dessous de 10 225 euros, vous ne payez pas d'impôt. Vous n'êtes pas imposable au titre du revenu du taux marginal d'imposition. Ensuite, vous êtes imposable à 11%, ensuite à 30%, ensuite à 41% et enfin à 45%. Voilà. Donc,
Il faut être vraiment très...
Ah, il faut avoir un revenu annuel de 160%. 1000 euros.
Ouais.
Ça va ? Ça va toujours ?
Oui, confortable.
Voilà. Alors, donc, la flat tax, je disais que c'était aussi pour le compte épargne logement et le PEL. Évidemment, c'est pour rigoler. Hein. La flat tax est d'abord pour les gens percevant des revenus du capital. Didier, t'es déjà hors jeu, en fait. Ah oui, je ne suis pas en plus. Hein. Je dis que tu es hors jeu, puisqu'on a les gens qui perçoivent des revenus du capital.
Ah ouais, non, mais ça, évidemment.
Bon, voilà.
Complètement non concerné.
Voilà. Alors, j'ai un petit crobar sous les yeux, je vais vous le dire parce que c'est amusant. Si vous êtes imposé au taux marginal le minimum, c'est-à-dire à 0%, la flat tax, vous êtes diminué de 30%. Alors que sur l'impôt normal sur le revenu, c'était 17,2. Donc vous payez la différence. Lorsque vous êtes au deuxième, la deuxième tranche d'impôt, vous auriez payé avec l'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux à l'ancienne, vous aurez payé 24,6%, alors que la flat tax, vous auriez payé 30%. Donc ce n'est pas intéressant. À partir de la troisième tranche d'impôt, vous auriez payé l'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux 33,1%. Avec la flat tax, c'est 30%. Je vais tout de suite à la cinquième tranche. Vous auriez payé avec l'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux 41,1%. Avec la flat tax, vous auriez payé 30%. Pour dire simplement les choses, ce qui est quand même déjà pas simple, je suis désolé pour l'auditeur et l'auditrice, en fait, avec la flat tax, au plus vous êtes riche, au plus ça vous rapporte, et au moins vous êtes riche, au plus, ça vous coûte. Voilà, c'est clair, ça ?
Tout à fait clair.
Merci. Bon, alors, un chiffre, tout simplement. Hein. Quelqu'un qui reçoit des dividendes pour 10 000 euros, avec la flat tax, il va percevoir 7 000 euros, alors que... Non, non, il sera contribuable à hauteur de 7 000 euros avec la flat tax de 5 890. Donc, il gagne un peu plus de 1 000 balles pour 10 000 euros de dividendes. Voilà où on en est. Alors, il y a aussi en France la question des impôts sur les sociétés. Et là, sur les sociétés, je vais passer un peu vite parce que effectivement. Non, je ne vais pas passer si vite que ça, finalement. Vous avez pu constater, si vous écoutez... si vous écoutez la télévision, vous ne le saurez pas. Si vous lisez les journaux un peu renseignés, vous saurez que depuis 2017, les impôts sur les sociétés n'ont jamais fait que baisser pour les entreprises les plus riches, à partir de 250 millions d'euros. Donc, le taux d'imposition est passé de 33,3% que paye ton boulanger, Ludovic, 31% en 2019, 31% pendant 2020, 27,5% en 2021. En 2022, il doit atteindre 25%. Et bien sûr, René va nous dire qu'il y a les 15% de Biden.
Oui, ah oui. D'ailleurs, on en a parlé dans
la dernière fois,
à Attac, que finalement, ces 15% pourraient devenir un plafond.
Oui.
Et amener encore une recherche d'abaissement des impôts sur les sociétés.
Et puis, alors, il y a le cadeau royal de Hollande, c'est évidemment le CICE.
Oui.
Je vais bientôt arrêter là parce que je vais laisser la parole à Ludovic. Mais le CICE, alors là, c'est quasiment une catastrophe. Ça coûte 20 milliards par an en France depuis qu'il a été instauré. Et puis, je vais reprendre à mon compte, parce que j'ai fait le calcul qu'a fait Laurent Cordonnier la dernière fois. Hein, en fait... Le CICE, on a créé 100 000 emplois sur deux ans, enfin sur une année en fait, mais étalé sur deux ans. Ça fait 100 000 emplois avec 20 milliards, ça fait 180 000 euros l'emploi. Ah, Didier.
Non, juste une observation par rapport à toutes les informations que tu nous donnes. Donc, ça me fait penser à la courbe de Piketty que tu présentais en début d'émission. Il faut savoir quand même que à l'époque du New Deal, sous Roosevelt, il y avait quand même des taux d'imposition à 95%. Et là, voilà où on en est rendu. Bon, c'est quand même assez éloquent.
Oui, c'est assez éloquent. Je te remercie de cette intervention-là parce qu'effectivement, c'est assez clair. Alors. Simplement, les calculs que j'ai faits sont d'une simplicité biblique, c'est une honte. Avec 20 milliards de CICE, on aurait pu créer, calcul d'attaque, à raison de 3 000 euros l'emploi, cotisation comprise, on aurait pu créer 600 000 emplois avec un salaire de 1 800 euros net, ce qui n'est pas dégueulasse quand même, il faut quand même le reconnaître, alors qu'on a créé... des impôts à 15 000 euros par mois avec le CICE. Enfin, c'était un calcul. Hein. Les gens qui ont bénéficié à 15 000 euros par mois, ils ne sont pas là, hein, ils n'existent pas. Hein. Bon, Ludovic, tu vas nous parler des comportements électoraux dans les réalités, pour les gens qui connaissent les réalités socio-économiques les plus graves.
Oui, alors effectivement, les inégalités, ce n'est pas que les inégalités économiques, c'est aussi effectivement les inégalités par rapport au vote. Et ça tombe bien, effectivement, on est à voter dimanche. Alors, par rapport à l'abstention, parce que je ne parlais que de l'abstention, la grande désertion des urnes prédite dans les sondages n'a pas eu lieu. À l'issue du premier tour de l'élection, l'abstention se situe finalement à 26% des inscrits. Donc on est, ça représente 12,8 millions de personnes malgré tout, mais bon, on est moins dans... C'est pas l'abstention qui était prévue il y a encore une semaine, où on attendait une abstention record à peu près comme celle de 2002. Donc ce niveau est bien plus haut qu'en 2017, mais reste légèrement inférieur au record de 2002. L'abstention est particulièrement marquée en Outre-mer, où elle atteint jusqu'à 69% en Polynésie, mais aussi en Corse, avec 37% de non-votants. En métropole, quelles sont les régions qui se sont le plus abstenues ? La Seine-Saint-Denis, d'abord, et oui. Puis avec 30%, ce qui n'est pas très surprenant, et le Nord, 28%. Il faut regarder avec 2017, peut-être qu'effectivement, mais bon, voilà, globalement, on a des chiffres qui ne sont pas très, très surprenants. La participation est plutôt bonne dans les petites villes et aussi dans les grandes métropoles. Elle est un peu moins dans les villes moyennes. Donc ce scrutin 2022 confirme aussi la désaffection des plus jeunes pour le vote. Selon une estimation, les 25-34 ans, ce serait abstenu à 46%. Assez important. Sociologiquement, bien sûr, il n'y a pas de surprise. Les ouvriers ont moins voté que les cadres. Le taux d'abstention chez les ouvriers, c'est 33%. Et à contrario, les retraités, donc si les jeunes ont peu voté, enfin, partie de la jeunesse n'a pas voté, les retraités, comme toujours, votent massivement. Ils sont 81% à avoir voté, malheureusement.
C'est un commentaire inacceptable.
Donc évidemment, rien n'est très surprenant dans, dans ces chiffres. Hein. Ça correspond aux variables lourdes de la sociologie électorale. Donc malgré la poursuite du processus de la massification scolaire depuis des années, depuis des décennies, globalement, la participation électorale croît avec le niveau de diplôme. De même, les électeurs ont une inégale proportion à participer selon leur âge, on l'a dit. Donc les plus jeunes donc, votent moins que les plus aînés. Leur aîné. Et par ailleurs, on a aussi d'autres dimensions qui sont intéressantes aussi dans ces variables. C'est le fait d'être syndiqué ou pas. Le fait d'être syndiqué, toute chose étant égale par ailleurs, comme on dit, est plutôt propice au fait de voter. De même que l'instabilité de l'emploi, associée à un contrat précaire, toute chose étant égale par ailleurs. Par ailleurs, là aussi, limite globalement donc l'intégration dans un collectif de travail. Et donc, du coup, par voie de conséquence va effectivement amoindrir le désir de voter. Ça, effectivement, on le voit. Là, je ne vais pas égrainer des chiffres, mais il y a une étude d'un politiste lillois, Tristan Haute, qui montre très bien si on prend par exemple les présidentielles en 2017, les salariés en contrat stable étaient à 82,5% avoir voté, les salariés en contrat précaire étaient à 72,7%. Si on prend les législatives en 2017, ces salariés en contrat stable étaient à 53,4%, alors qu'ils ne sont que de 38% pour les salariés en contrat intérim. Les conditions de travail aussi jouent, effectivement. Le fait d'avoir une faible autonomie dans le travail favorise, encore une fois, toute chose étant égale par ailleurs, une abstention plus importante. Et par ailleurs, les salariés qui déclarent travailler souvent ou toujours de manière répétitive, là aussi, sont plutôt enclins à moins participer. Si on prend les chiffres des régionales 2015, les gens qui disent qu'ils ont un travail répétitif toujours ou souvent sont 60,6% à avoir voté, alors qu'ils sont de 70% pour les gens qui disent jamais ou parfois ne pas avoir de travail répétitif. De même que pour les législatives 2012, on a un écart de 10 points entre ceux qui disent qu'ils ont un travail répétitif et ceux qui n'en ont pas. Donc, là, encore une fois, tout cela montre bien qu'on pourrait aussi égrainer d'autres, il y a d'autres chiffres, d'autres dimensions, notamment les facteurs géographiques. Tout cela, évidemment, atteste effectivement des inégalités et notamment que les conditions de travail et que la précarité sociale, évidemment, souvent, est de nature à réduire la participation et donc, du coup, à laisser voter les autres, notamment les plus âgés, qui, elles, votent plutôt pour l'ordre.
On fait une petite pause musicale. Hein.
Non, juste une question. Thomas Coutreau, par exemple, faisait une corrélation, un parallèle entre les gens qui avaient aucune autonomie dans le travail et le vote d'extrême droite. Est-ce que tu penses que c'est pertinent
là? Là, Tristan Haute, il met plutôt en avant le fait que c'est plutôt de nature Là, il n'y a pas de données sur le... Là, c'est plutôt sur l'abstention. Ouais. Mais effectivement, sans doute qu'effectivement, ça peut aussi jouer. C'est-à-dire que quand ils s'abstiennent de voter, peut-être qu'ils votent peut-être plus Marine Le Pen que Jean-Luc Mélenchon.
Ouais. Bon. On va bien inviter Thomas Coutreau à l'émission. Ouais. Florence, c'est à toi.
Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. Non. Les affaires marchent en ce moment. Du coup, j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain, il a des trucs. Moi aussi, je voudrais des trucs. Je possède des thunes. Ouais. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Non. Les affaires marchent en ce moment. Du coup, j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain, il a des trucs. Moi aussi, je voudrais des trucs. Je possède des thunes. Ouais. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Non. Les affaires marchent en ce moment. Du coup j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain il a des trucs. Moi aussi je voudrais des trucs. Je possède des thunes. Ouais. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Non. Les affaires marchent en ce moment. Du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain il a des trucs, moi aussi je voudrais des trucs. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain il a des trucs, moi aussi je voudrais des trucs. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain il a des trucs, moi aussi je voudrais des trucs. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain il a des trucs, moi aussi je voudrais des trucs. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain il a des trucs, moi aussi je voudrais des trucs. Et du coup je suis content.
Donc c'était David Castello Lopez, hein.
Ah ouais. Merci. Merci. On va passer aux actualités d'Attaque avec, bah, devinez qui. Bah avec René, bien sûr. René, tu es toujours là ?
Oui, oui.
Alors, on commence par quoi ?
Eh bien...
Au plan national ?
Oui, au plan national.
Vas-y, on t'écoute.
Alors, retour sur la campagne Candidat des inégalités. Plusieurs actions menées dans diverses localités et régions de France, Rodez, Nîmes, Carcassonne, dans le Béarn, les Hautes-Pyrénées, etc., et à Paris également, où la Samaritaine a été occupée pendant 2 heures. Donc Christian vous en a parlé un petit peu. C'était le dimanche 3 avril, où 70 militants et militantes d'Attaque, de Droit au Logement, du collectif Interurgence et du syndicat Solidaire Finance Publique, donc ont occupé la Samaritaine, et ici également à LM Lille. Et suite à l'action de la Samaritaine, Bernard Arnault s'invite encore une fois dans les colonnes du Parisien. Attaque a l'habitude de voir une partie de la presse réagir de façon vigoureuse à ses actions désobéissantes.
Oh, pas seulement Attaque, hein. Je me souviens d'Hidalgo, elle fait un scandale aussi. Enfin, vas-y, continue, oui, excuse-moi.
Oui,
qui ça ?
Alors, suite à notre action à la Samaritaine, le Parisien a fustigé en des termes grossiers et mensongers l'action pacifique et non violente à laquelle participaient plusieurs organisations citées. Selon le quotidien, cette action était violente, menée par un mouvement d'extrême gauche, un vocabulaire qui interroge puisque l'action visait notamment le propriétaire de ce même journal, devinez qui. Nous assistons à un nouveau cas d'école des effets de la concentration des médias dans les mains des milliardaires. Un journal de référence qui altère sa ligne éditoriale pour défendre son propriétaire, quitte à transformer la réalité, nous le regrettons. Mais cela nous encourage à redoubler d'efforts pour dénoncer la mainmise de quelques milliardaires sur l'écosystème médiatique français.
Donc, enfin, le Parisien réponse, comme journal de référence, on fait mieux quand même.
Oui.
Oui. Une propriété de Bernard Arnault, je rappelle.
Alors, le GIEC.
Alors, le nouveau rapport du GIEC, eh bien, amplifions nos mobilisations pour la justice climatique. Le dernier volet du sixième rapport du GIEC confirme l'accumulation du retard pris par les États pour éviter une catastrophe climatique et humaine. Résultat, on se dirige tout droit vers une augmentation située entre 3,3 et 5,4 degrés.
Pour la fin du siècle, oui.
Le premier constat du GIEC est celui d'une poursuite de la hausse des émissions qui ont augmenté de 11% par rapport à 2010. Les investissements sont à 20% de ce qu'il faudrait pour éviter une augmentation de la température globale de 1,5% ou 2 degrés à la fin du siècle. Le GIEC demande donc au gouvernement d'accélérer la mise en place de politiques publiques, de réguler les lois du marché, tout en mettant en cause la pensée économique néolibérale. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est la première fois que le groupement de chercheurs plaide pour une rupture avec la logique de croissance inhérente au capitalisme.
En effet, oui.
Il dénonce également l'accroissement des inégalités dans l'aggravation de la situation présente. pointant le fait qu'à l'échelle mondiale, les 10% les plus riches sont à l'origine de 36 à 45% des émissions. C'est donc une revendication de justice climatique dont les stratégies doivent passer par une redistribution des richesses, une juste répartition des efforts et la nécessité d'un changement structurel profond des institutions et des modes de financement.
On retrouve un peu le rapport d'Oxfam, en effet, oui.
Voilà, c'est assez proche et de ce que dit aussi Attac, bien sûr. Ce nouveau rapport du GIEC est de fait un acte d'accusation contre l'inaction climatique, dont le quinquennat qui s'achève constitue une lamentable démonstration. Alors que la campagne présidentielle a très peu évoqué les dérèglements climatiques, c'est bien un choix crucial auquel nous faisons face.
Donc au plan local, alors.
Oui, au plan local, maintenant. Alors, un petit retour sur la campagne locale candidat des inégalités. Donc, malgré le froid plutôt vif, ce samedi 2 avril, nous étions plusieurs militants des comités locaux de la métropole pour relayer la campagne nationale candidat des inégalités à l'entrée du marché d'Hellem. Alors, pendant que 4 ou 5 militants soutenaient la banderole, creuser les inégalités, c'est leur projet, qui nous assurait une visibilité sans pareil, les autres distribuaient les tracts. Cette action a fait l'objet d'un article dans La Voix du Nord, en ligne. Vous pouvez le retrouver également sur le site d'Attaque France. Et le mercredi suivant, donc Didier vous en a parlé, une autre manifestation dans les rues piétonnes de Lille qui a malheureusement été interrompue par l'intervention de la maréchaussée. Ensuite, Parc Saint-Sauveur, projet de fédération des luttes contre les projets de lamelles. La réunion prévue s'est tenue le mercredi 30 mars à Lamresse. Un indéniable succès. 27 personnes présentes, représentant pas moins de 17 organisations, allant du collectif de riverains à des associations plus généralistes, comme Entrelian, Aspi, XR et bien sûr Attac. Et aussi des associations artistiques comme Cherita. Cette réunion, objet d'une première prise de contact, a permis une meilleure connaissance des différentes luttes et aussi de définir les objectifs de cette fédération. Augmenter le rapport de force, mettre en commun connaissances et expériences, développer des capacités d'expertise et pouvoir agir en justice. Une prochaine réunion est prévue le 23 mai. Et enfin, toujours, on l'a appris donc à Parc Saint-Sauveur pendant cette réunion, Elnor Pas-de-Cadeau revient avec Tutopia 2022. Il faut dire que Aspi et Cherita sont partie prenante de cette manifestation. Alors, ce sera la parade des financeurs et remise du parpaing vert, atomes et béton, vitesse et avion, e-commerce et communication. Les utopistes de notre métropole méritent la plus belle des célébrations. Ce sera le samedi 7 mai à 15h. Le lieu de départ, c'est le Belvédère, hein, donc à côté de la Friche Saint-Sauveur.
C'est à la Bourse du Travail, quand même.
Oui. La grande loge partie, donc boycottez l'île 3000, ne paradez pas pour leurs financeurs douteux, venez à la grande loge partie d'Elnor Pas-de-Cadeau 2022. Et ça, c'est le samedi 14 mai de 19h à 23h30 à la Bourse du Travail.
Merci René, donc on passe à l'agenda militant. Alors, tout à l'heure, à 14h, à l'appel des participants aux discussions sur la guerre et l'Ukraine au Centre culturel libertaire de Lille, donc un rassemblement pour la solidarité internationale contre les guerres et le nationalisme. Place de la République, donc 14h, face aux guerres, une seule arme, solidarité sans frontières. Et donc ce rassemblement également rejoint au même endroit par contre l'extrême droite et ses idées, pas de Marine Le Pen à l'Élysée. Voir sur le site de la Ligue des droits de l'homme. Ensuite, projection Ce qui nous lie, réalisée par Mélanie Gilmand, Au départ, Mélanie se questionnait sur son propre bonheur, mais rapidement, elle se demande si, à l'échelle du pays aussi, on ne ferait pas fausse route, et si nos liens comptaient plus que nos biens. C'est au Danemark et en Finlande, toujours en tête des classements sur le bien-être, qu'elle part en quête de réponse sur l'un des premiers lieux de socialisation, l'école. Événement proposé par l'association Chez Violette, et c'est le 16 avril 19h au cinéma Ligne Vert, 16 rue Georges Danton à Lille. Au café coopératif Les Sarrasins, rencontre avec Lucie Leclerc autour de son livre Hold Up sur la Terre. C'est le jeudi 28 avril à 20h. Donc c'est un phénomène puissant qui transforme radicalement l'agriculture française, l'accaparement des terres. Naguère réservé aux pays du Sud, il se répand rapidement dans notre pays. De grandes entreprises achètent la terre par centaines d'hectares. Elles profitent des failles de la législation qui laisse perdurer le gouvernement et le Parlement. Ce livre, résultat d'une enquête de plusieurs années et nourri de nombreux reportages, révèle cette mutation souterraine que l'on peut qualifier de hold-up. Donc, c'est organisé par les amis du monde diplomatique et l'AMRES, avec comme invité Antoine Jean de la Confédération Paysanne et Philippe Ducamp de Terre de Liens. Ensuite, projection du film La bataille de la plaine. Donc, ça parle d'une bataille de 2016 à 2019, à fin 2019, sur le quartier de la plaine dans le centre de Marseille, où se tient trois fois par semaine le plus important marché populaire de la ville et qui a été le théâtre d'une bataille tumultueuse. Elle opposait les services d'urbanisme de la mairie, déterminés à mener un important programme de requalification, entre guillemets, et de montée en gamme, entre guillemets, du quartier à une importante partie des habitants organisés en assemblée populaire, qui voyaient une opération de gentrification et réclamaient d'être associés aux travaux. Cette bataille épique de trois ans se terminera par la construction, en situation quasi militaire, tout autour de la place d'un mur en béton de 2,50 m de haut, pour assurer le déroulement des travaux. Et donc, si vous êtes intéressé, ça se passe le 21 avril à 19h30 à la Chaufferie. C'est 5 rue Jean-Raymond de Grève à LM. Et enfin, n'oubliez pas la traditionnelle manifestation du 1er mai à Lille, 10h, porte des postes, comme d'habitude.
On y sera et après, on ira à la fête de la soupe, bien sûr.
Ou au Salon du Livre d'Arras.
Ou au Salon du Livre d'Arras, où on a effectivement des choses à dire, à faire. Un mot quand même, hein, l'accaparement des terres aussi, c'est aussi en France. Auchan est en train de s'accaparer un bon nombre de terres, aux grandes dames des vrais paysans et des vrais cultivateurs. Bon. Bien, on va s'arrêter là. Il est 12h58, on est dans les temps, il n'y a pas de problème. J'espère que cette émission vous a intéressé. Vous pouvez toujours la réécouter pendant deux mois sur le site de Radio Campus, campuslille.com, bien entendu. Et en attendant, eh bien, on se voit maintenant le 30 avril, puisqu'il y a 5 samedis dans ce mois-ci. On ne sait pas encore qui viendra. On espère Rémi Lefebvre pour parler de son livre « Faut-il désespérer de la gauche ?»
Oui, et j'ai oublié de préciser, vous pouvez retrouver tous les rendez-vous sur le site Démosphère Lille, hein, lille.démosphère.eu.
Donc, l'oubli réparé.
Hey mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré. J'habite à Neuilly dans un quartier mal paumé. Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix, la bannière pour me sustenter. Pas un arabe du coin ni un euro marché. Haute Neuilly, pas si tel est notre ghetto.
Hey mec, mon nom à moi c'est Hubert Valéry. Patrick Stanislas, duc de Montmorency. À 5 ans et demi, j'avais déjà ma Ferrari. Je pouvais pas la conduire, bien sûr, j'étais trop petit.
As-tu saisi mon pote, notre envie de révolte?
J'ai envie de crier zut en flûte. Te crante
chier.
Hôtel Neuilly Passy, c'est pas du gâteau. Hôtel Neuilly Passy, tel est notre ghetto.
Salut, tu vas bien? Salut, tu vas bien?